Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Merci, merci d'être avec nous dans Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC. Estelle est encore en vacances. Attention qu'elle en profite, hein, parce que dès lundi, elle sera de retour avec nous sur RMC et RMC Story, de Canal 23 de la TNT. J'ai autour de moi aujourd'hui Mao Bécard-Granier pour nous donner toutes les infos, pour qu'on comprenne tout ce qui se passe sur cette planète. Thierry Moreau, journaliste. Emmanuel Doncourt, journaliste indépendante. Et Pierre Rondeau, économiste du sport. Dans un instant, aucune ville française dans le top 10 mondial des mieux adaptés au vélo. La cohabitation automobiliste-cycliste est-elle impossible dans notre pays? Vous nous appelez au 32-16. À 13h30, c'est le meilleur du jour sur RMC, ce sera les zappings. À 14h, les ventes de camembert en France, excusez-moi, je suis un peu ému.
Bah oui.
Talonné par celle de la par les ventes de mozzarella. Si si. Sommes-nous en train de perdre nos valeurs culinaires? À 14h30, les immanquables de Mao, avec des affiches anti-vax interdites. Le Japon qui recommande, lui, aux jeunes, assez jeunes, de se mettre à l'alcool. Et à 14h50, le quiz d'Estelle, avec à gagner aujourd'hui Mao.
A gagné aujourd'hui le tote bag RMC, le fameux et le célèbre jeu de société, le Milborn. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 3216 touche 4 ou envoyez le mot quiz par SMS au 73216, quiz au 73216.
RMC Estelle Midi.
J'ai partout avec mon vélo, dans les jardins, loin des métros. J'ai partout avec mon vélo.
Le classement du jour, classement mondial des villes les mieux adaptées au vélo. Et Mao, aucune ville française ne figure dans le top 10.
La France complètement absente du top 10 des villes les plus adaptées aux cyclistes à travers le monde. Premier représentant français, c'est Strasbourg à la 11e place, juste devant Bordeaux. Et la capitale, Paris, elle n'arrive qu'à la 32e place mondiale. Les critères évalués sont multiples. Il y a les infrastructures, la sécurité, les événements organisés pour les cyclistes, comme les journées sans voiture, ou encore, et là c'est beaucoup plus aléatoire, c'est vrai, la météo. Alors dans le top 3 de ce classement, on retrouve Utrecht aux Pays-Bas, Münster en Allemagne et Anvers en Belgique, mais pas de grandes villes françaises. Et pourtant, à Paris, la ville change progressivement. Les compteurs de vélos ont enregistré, on en parle souvent.
La ville change. Je ne sais pas dans quel sens, mais elle change, ça c'est certain.
Et les compteurs de vélos ont enregistré une fréquentation des pistes cyclables en hausse de 47% en moyenne entre 2019 et 2020. Mais malheureusement, avec le développement des pistes et du nombre de cyclistes, augmente aussi le nombre d'accidents, plus 35% en 2020 par exemple. Il reste donc du boulot et les associations insistent sur certains points. Mieux sécuriser les carrefours, généraliser les dispositifs de détection d'angle mort sur les véhicules longs et surtout continuer d'agrandir le réseau des pistes, pas toujours pour le plus grand bonheur des automobilistes. C'est ça Rémi?
Exactement. La cohabitation automobiliste-cycliste est-elle impossible en France? Vos réactions au 32-16. Et pendant que tu parlais Mao, je regardais Thierry qui ne cessait de sourire, de rire, lorsqu'il a entendu Paris 32e. On va pas faire du parisianisme.
Hein. Non, ça concerne beaucoup de villes.
Mais quand tu as entendu Paris à la 32e place, ça t'a fait bien sourire.
Mais oui, parce qu'on a pris en France le problème à l'envers. On a incité à l'utilisation abondamment du vélo avant d'adapter les structures. Et on en arrive à des aberrations dans beaucoup de villes que moi j'ai pu voir, où il y a des pistes cyclables qui sont au milieu des voies bus. Qui à un moment a pu penser qu'un bus face à un vélo,
c'est
le vélo qui allait gagner. On a des pistes cyclables qui traversent des carrefours un peu n'importe comment. On a aussi et quid du piéton évidemment.
Qui peut pas traverser parfois. Moi, ça m'est arrivé. Hein.
On peut pas.
Je suis arrivé à un carrefour. Il y avait plein de pistes cyclables, un sens pour les voitures. Je pouvais pas traverser.
Il y avait des
vélos tout le temps.
Voilà. Donc on a pris le problème à l'envers. Un certain nombre de pays européens ont pris le problème dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on d'abord fait les structures avant d'inciter au vélo. Je vais donner un exemple. À Amsterdam, lorsque vous arrivez avec votre voiture, si vous voulez venir en voiture, mais vous pouvez venir en train, c'est aussi bien. Vous laissez votre voiture
au périphérique,
grands parkings qui sont autour d'Amsterdam. Immense. Vous allez utiliser les transports en commun, et si vous revenez récupérer votre voiture avec votre ticket de transport en commun, eh bien votre voiture vous coûte 1 euro par jour de stationnement dans ces immenses parkings. Donc évidemment, il y a peu de voitures. Alors Amsterdam est une petite ville, je veux bien tout ce qu'on veut, mais en France, nous n'avons pas de parking périphérique pour laisser notre voiture à l'entrée des villes. Alors la deuxième chose,
Amsterdam est 5e de ce classement d'ailleurs.
Voilà. Deux éléments à rajouter. On a tellement donné la prédominance au vélo que maintenant le vélo se croit tout permis et ne respecte plus rien. plus les stops, plus les feux, et même pas les piétons. Moi, je vois des piétons qui se font. Moi, alors, je suis souvent en voiture, mais je vois des piétons se faire engueuler par les cyclistes parce qu'ils osent, demander le droit de traverser.
C'est fou.
Sur les passages piétons, c'est fou. Et la troisième chose, c'est bien le vélo. C'est bien quand on est bien portant, quand on est jeune, comme Pierre Rondeau, dans la force de l'âge, formidable. Mmh. Lorsqu'on est une personne âgée, quand on est handicapé, quand on est une famille nombreuse, eh bien, quid des transports, quid de l'accessibilité des transports en commun, parce qu'il n'y a pas que le vélo. Et là, il y a aussi encore, on est très en retard. Donc, ce classement ne m'étonne pas du tout. Et effectivement, aujourd'hui, en France, la cohabitation vélo-voiture n'est pas possible.
Emmanuel, dans le cours, tu fais du vélo ? Bon, t'habites à la campagne. Non, mais les conditions ne sont pas les mêmes.
Je ne pose pas la question. Alors, moi, c'est très, très vallonné là où j'habite. Mmh. Mais cela dit, entre le petit village où j'habite et Dijon, il y a une piste cyclable qui commence au village. Après le mien, il y a une piste cyclable et je connais des gens qui vont faire alors 30 km, il y a quand même 30 km hein, à vélo pour aller travailler à Dijon, mais c'est pas les plus nombreux. Quand on regarde quand même la France, qui est un grand pays, on a que 13 600 km de piste cyclable, c'est pas beaucoup en fait. Et si vraiment c'est la première chose qu'a dit Thierry, c'est que c'est une volonté politique.
Si elles sont faites n'importe comment, c'est déjà trop. Enfin, non, mais c'est vrai.
Voilà, donc il y a déjà un problème à repenser complètement ce qu'on appelle les mobilité douce et à les repenser, comme tu l'as très bien expliqué, par rapport au déplacement des voitures, des autres mobilités douces, les bus, les trams, et puis les piétons qui se font renverser. Ils ne se font pas seulement engueuler, les piétons, ils se font renverser aussi parfois. Et moi, je me suis renseignée un petit peu sur ma région, parce que je me souvenais avoir entendu parler d'une prime, et je me suis rendu compte que beaucoup de régions, en fait, font ça, comme la Bourgogne. C'est-à-dire que si tu veux t'acheter un vélo ou un vélo électrique, mais qui n'est pas fait pour te balader pendant le week-end, qui est fait pour aller au boulot. La Bourgogne, sous certaines conditions évidemment de ressources, te donne une prime et te paye ton vélo à condition que tu le gardes 3 ans, que tu ne le revendes pas tout de suite, que quand la boîte, le petit moteur, la batterie est usée, il faut que tu ailles la recycler, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un vrai effort des régions pour aider les gens à acheter leur vélo. Mais cela dit, s'il n'y a pas de piste, si ce n'est pas organisé pour, très souvent, Pierre, tu nous parles, toi, de tes problèmes
justement,
à vélo.
Justement, j'allais lui donner la parole, tu le fais pour
c'est
moi.
C'est un sujet récurrent hein, avec Pierre.
Pierre
Rondeau,
cycliste dans l'âme. Non, mais c'est vrai, tu te déplaces énormément.
Je pense que sur Strava, je dois être entre... peut-être 5000 km par an de vélo.
Oh bah énorme.
Tu fais combien de kilomètres pour venir dans l'émission?
Je crois que je suis de mémoire à 4,9 km.
Et si tu étais salarié d'RMC, ce que tu n'es pas, tu aurais le droit de toucher 25 centimes par kilomètre de vélo, puisqu'aujourd'hui, les employeurs sont obligés de rembourser les
Mais la question, ouais. Pierre, ce classement des villes mondiales les mieux adaptées au vélo. Il n'y a aucune ville française dans ce top 10. Strasbourg s'en sort à peu près bien 11e, Paris 32. Deuxième. Ouais. Toi qui le vis, est-ce que je te pose la question, la cohabitation automobiliste-cycliste est-elle impossible en France ?
Impossible, non. Mais c'est clair qu'on a un très gros retard à combler et qu'on part de très loin. Il faut quand même rappeler qu'il y a quelques années, on ne pouvait même pas imaginer faire du vélo dans Paris ou dans les grandes villes.
Moi, j'ai fait MCV plusieurs fois.
Hein. Oui, voilà. Mmh. Moi, j'ai commencé, la première fois que j'ai commencé à vraiment faire du vélo et me déplacer dans Paris à vélo, c'était en 2006, lorsqu'on a intronisé le Vélib. Les premiers Vélib, c'était en 2006. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, beaucoup d'évolutions, beaucoup de pistes cyclables qui ont été construites. Mais bien évidemment, et là je rejoins Thierry là-dessus, c'est souvent mal réfléchi, mal préparé, mal amené, mal concerté avec l'ensemble des usagers.
Il n'y a pas qu'à Paris, mais moi, je me demande tout simplement si c'est réfléchi.
C'est dogmatique, c'est ça le problème. C'est souvent très dogmatique.
Alors attention à ne pas non plus tomber dans la caricature dogmatique et politique, parce que je peux, à contrario, je peux aussi témoigner vis-à-vis de Saint-Malo, qui est une ville de droite, donc je n'ai pas tombé dans le cliché politique, le Paris à gauche et Saint-Malo à droite. C'est pas la même hauteur, je suis d'accord avec toi, mais il y a un comparatif qui peut être fait. Dans tous les cas, c'est pas réfléchi. Dans tous les cas, en fait, il y a une loi qui existe, qui date de mémoire de 94, mais je peux me tromper sur la date, qui impose à ce que toutes les routes départementales et toutes les routes locales lorsqu'elles sont construites,
soient adaptées,
mettent en place un accès vélo, une piste cyclable. Et tu vois, par exemple, moi je le vois à travers Saint-Malo, moins à Paris, mais à Saint-Malo par exemple, les routes font la même taille qu'autrefois, des deux voies de taille standard, si je puis dire, mais ils t'imposent dessus des pistes cyclables. Ce qui fait qu'au niveau de la cohabitation, c'est rendu très compliqué parce qu'il n'y a pas un espace supplémentaire qui est créé pour pouvoir rouler à vélo sans danger. Et régulièrement, c'est vrai que les voitures ont la place pour leurs voitures et voient
elles frôlent les vélos,
elles klaxonnent quand on ne va pas assez vite. C'est assez compliqué. Donc, je peux parfaitement comprendre et malheureusement, je vois ce résultat et je ne peux qu'acquiescer au fait que la France soit loin derrière tous les pays européens.
Et puis, il y a le vélo bashing aussi. les cyclistes comme toi, vous faites sacrément.
On est aussi virulents. Moi, je veux témoigner. Je témoigne, je suis honnête. Ouais. Effectivement, on grille les feux quand c'est pas dangereux. Je le précise. Hein, j'ai pas grillé un carrefour assez agité, mais on grille les feux. C'est avec les piétons. Parfois, effectivement, j'ai pas les insulter à chaque fois, mais bon, je peux comprendre que les piétons soient énervés contre nous.
Et j'ai même le sentiment qu'aujourd'hui, parce que bon, il y a de plus en plus de, on le sait, de plus en plus de cyclistes en France. Que je sais pas si tu vas me confirmer ça, mais qu'il y a une mentalité. En plus, il y a des, et c'est très bien. Il y a des questions environnementales, etc. On valorise beaucoup l'utilisation du vélo. Et moi, j'ai même le sentiment, en tant qu'automobiliste, que parfois ils se croient tout permis et que c'est eux qui s'imposent. Et je te donne un exemple très concret. Alors là, c'est pas Paris du tout. Moi, j'habite dans le Nord. Hier, j'étais sur la route de campagne. Hein. J'arrive à un rond-point et je vois. Donc moi, j'étais engagé sur le rond-point. J'avais déjà parcouru la moitié du rond-point et je vois deux cyclistes qui s'engagent, me voyant arriver, mais s'engagent sans problème, continuent leur route. Il s'agissait pas de personnes complètement ahuries, puisqu'il s'agissait de deux, en tout cas de ce que j'ai vu, de deux septuagénaires. Hein, je pense que c'était le mari et la femme. Ils étaient équipés, hein, le casque, la tenue de cycliste, mais ils sont passés comme ça. Là, j'ai ralenti, j'étais quasiment au pas. Et ils m'ont vu mon air surpris parce que ils venaient clairement de s'imposer, enfin de griller le code de la route, enfin de faire une infraction. Et là, ils ont heureusement. De toute façon, je me serais pas imposé. Je suis pas un idiot. Je suis pas un imbécile. J'allais pas jouer à l'imbécile. Ouais. Mais ils ont tendu leurs bras pour montrer qu'ils continuaient à tourner dans le rond-point. Alors que moi, j'allais sortir, donc j'allais leur couper la route. Mais j'ai dû m'arrêter.
Ouais.
Alors je me suis arrêté. Bien,
peut-être un sentiment d'impunité.
Je sais pas. Enfin, je me dis quand même. Et je me suis dit, c'est quand même hyper dangereux comme comportement. Quoi.
Moi qui fais du vélo maintenant depuis très longtemps en ville et dans Paris, je te dirais que je n'ai pas ce sentiment d'impunité.
Tu comprends ce que je veux dire? J'ai eu le sentiment que le vélo maintenant s'impose à la voiture.
En fait, on leur a tellement dit que tout leur était permis, que maintenant ils se considèrent comme les rois de la route.
Moi, je le vois qu'il y a des gens qui sont des néophytes et des débutants à vélo dans les villes, et c'est vrai que peut-être par esprit, j'en sais rien, je sais même pas, je pourrais pas l'expliquer, mais on a effectivement un sentiment, en tout cas, ils laissent croire qu'ils aient un sentiment d'impunité parce qu'ils participent à la transition énergétique.
Tu me fais peur quand même quand tu dis que tu arrives de griller certains feux parce que quelque part j'ai failli te renverser, c'était pas toi, c'était une dame qui devait avoir la soixantaine. C'était pas plus tard qu'avant-hier. Elle a, heureusement que mon feu était rouge et que donc j'ai décéléré pour m'arrêter au feu rouge parce que elle, c'était encore rouge pour les piétons. Elle conduisait sur le trottoir. Elle était à vélo sur le trottoir. Elle a traversé, mais direct. Si mon feu avait été vert, j'avais aucun moyen de l'avoir arrivé de la droite, caché par un immeuble. Si mon feu était vert, je la renversais. Et donc, je te renversais quelque part. Faut faire gaffe quand même. Hein.
Nadège est avec nous au 32-16. Bonjour, Nadège.
Bonjour.
Ah bah tiens, on est chez moi. On est à Lille, dans le Nord. Vous êtes infirmière, Nadège, c'est ça?
C'est ça, tout à fait, ouais.
Cycliste par ailleurs.
Oui, c'est ça.
Bon. La cohabitation entre automobilistes et cyclistes, est-ce qu'elle est possible? Comment ça se passe à Lille?
Bon, je pense un peu comme partout ailleurs, hein, de toute façon. Non, effectivement, je suis assez d'accord avec votre intervenant, qui est cycliste aussi, et qui dit que c'est sur ce travail, voilà, Pierre, où effectivement, je le rejoins tout à fait sur ça et sur les pistes cyclables qui sont mal pensées, qui sont des fois aussi non nettoyées. Donc moi, par exemple, sur Lille, il y a une grande ville, Lambersart, qui est très réputée ou très cotée. Mais la piste cyclable, elle est dégoûtante, quoi. Elle est pleine de cailloux, pleine de morceaux d'arbres et tout ça. Donc, on ne fait pas forcément les tubes. Donc, on se fait klaxonner parce qu'on est passé un piste cyclable. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Après, je suis d'accord par rapport au sentiment d'impunité des cyclistes qui font aussi n'importe quoi de l'autre côté. Voilà. Donc c'est compliqué. Je pense que tant que les gens ne respecteront pas clairement les règles,
Mais après, c'est donnant-donnant. Hein. Toujours c'est mettre ça, sur le côté impunité du cyclisme. On peut aussi parler des piétons qui marchent sur les pistes cyclables et qui insultent quand on leur demande de se déplacer. Des voitures qui s'arrêtent dans le sas vélo, parce qu'il y a un sas vélo, et je rappelle que c'est le monde de 180 euros. Si on s'arrête sur le sas vélo, ça existe.
C'est précise, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. C'est juste avant un feu rouge. Tu as une petite zone avant le feu rouge, qui est parfois en vert. Ça dépend. Ça n'est pas en vert en général. Et ça veut dire que toi, toi, avec ton véhicule automobile, tu dois t'arrêter avant cette zone et le avant, donc un petit peu avant.
Attendez,
le feu et les vélos se mettent devant.
J'ai jamais vu ce truc-là. Ah,
non,
c'est
il y en a partout.
Je suis pas parisienne, hein, mais
dans Paris, il y en a partout.
Mais il y en a pas qu'à Paris.
Sauf que parfois, on les voit plus parce qu'elles sont déjà effacées.
Il y en a pas qu'à Paris, il y en a beaucoup.
Non, non, mais parce que ce que je dis, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'y a eu aucune communication. Là, ça a été créé, ça a été fait, mais les gens ne savent pas, en fait.
C'est vrai,
on est d'accord. Alors que, voilà, un petit spot à la télé ou quoi que ce soit pour expliquer de temps en temps les règles, ça pourrait être si simple, en fait.
Très bonne idée.
Merci, Nadège, d'avoir été avec nous au 32-16. Belle journée du côté de Lille, dans le Nord. Et Thibaut Quéré nous rejoint à présent. Bonjour, Thibaut Quéré.
Bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC. Vous êtes responsable du plaidoyer à la Fédération des usagers de la bicyclette. Tiens, Thibaut Quéré, je vous pose la même question qu'à tout le monde. Hein. Aucune ville française dans le top 10 mondial des villes les mieux adaptées au vélo. Est-ce que en France, on a un problème avec la cohabitation entre automobilistes et cyclistes?
Alors ouais, donc le classement dont vous parlez, bon, il comporte énormément de limites, mais en tout cas, ce qu'on voit dans la conclusion, c'est que c'est assez logique au final que les villes néerlandaises, danoises ou allemandes, elles nous passent devant et que nous, nos villes françaises, elles soient largement en retard. Alors après, on pourra revenir spécifiquement sur le sujet de la cohabitation entre vélo et voiture, mais si on voit que ce classement il est fait ainsi, c'est que ça a tout à voir avec les politiques qui ont été mises en place et choisies depuis plus de 50 ans entre nos pays, qui sont vraiment deux stratégies totalement différentes et qui toutes les deux ont pris leur source au même endroit, c'était la crise des années 70. Aux Pays-Bas, on fait le choix de mettre le vélo au cœur de la politique de mobilité, de sécurité routière et de souveraineté du pays. Et donc, on met vraiment des moyens sur le sujet et je pourrais revenir dessus après. Alors qu'en France, on fait le même choix, mais pour la voiture. Et donc, on a organisé l'espace public de manière différente. Et aujourd'hui, on voit que y a une envie de faire autrement. Il y a clairement une pression sur le pouvoir d'achat qui est énorme du côté des personnes qui roulent en voiture. Et nous, dans nos associations, il y a énormément de personnes qui viennent, qui veulent changer de mobilité. Mais qu'au niveau politique, on a une succession d'occasions manquées, comme le rappelait un collègue Clément Duzon dans une tribune ce matin au Monde, une succession d'occasions manquées pour inverser la trajectoire.
C'est quoi les occasions manquées dont vous parlez?
Passer les occasions politiques qu'on a eues à longueur de temps. On a eu évidemment la crise énergétique dans les années 70. On a eu les gros sujets de sécurité routière aussi qui sont beaucoup montés dans les années 80-90. On a eu toutes les politiques environnementales aussi depuis une dizaine d'années où on aurait pu aller beaucoup plus fort, beaucoup plus loin sur la question du vélo, mais pas que du vélo, hein, des transports collectifs et notamment des petites lignes du territoire ou de la marche. Et tout ça, c'est des occasions où on a préféré encore investir dans un système plutôt qu'un autre. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Ce qui m'intéressait dans votre débat, c'est qu'on est beaucoup sur l'aspect comportemental et individuel. On parle beaucoup automobiliste, cycliste, piéton. Moi, pas plus tard que cette semaine, je pense que j'ai été les trois, quatre avec usagers du transport collectif. Donc, en fait, on parle quand même de gens qui choisissent des modes de mobilité ou qui sont contraints de choisir un mode de mobilité par rapport à un autre. Et ce qui est intéressant plutôt de réfléchir d'un point de vue politique, c'est est-ce qu'on veut hiérarchiser les modes comme c'est fait aux Pays-Bas? C'est-à-dire que le choix est très clair que la priorité, c'est la marche. Ensuite viennent les transports collectifs ou le vélo. Et puis ensuite, on met en sorte que la voiture puisse faire les trajets de rabattement pour derrière laisser la pleine place au reste des modes de transport.
Je partage votre analyse sur le fait qu'effectivement, depuis très longtemps, on n'a pas choisi la même voie que d'autres pays. En revanche, vous éludez quand même toute une partie du problème qui fait que là où une volonté a été mise en avant dans certaines villes, ça a été parfois mal fait parce que fait de façon trop vite, de façon erratique, de façon non concertée. Et on en arrive à des aberrations où, je le disais tout à l'heure, des pistes cyclables sont au milieu des voies bus, par exemple. Et ça, vous l'éludez un peu dans votre raisonnement, si je puis me permettre.
Non, mais clairement pas du tout. Après, c'est un processus qui met du temps. Enfin, aux Pays-Bas, aujourd'hui, ils peuvent, entre guillemets, fanfaronner et être très heureux. C'est 50 ans de politique.
Hein. Oui.
En France, on n'est même pas à 20 ans dans les...
Est-ce que vous pouvez reconnaître qu'aujourd'hui, c'est certainement... C'est quelquefois mal fait,
oui, c'est
trop vite et pas concerté.
C'est précis.
Ah oui, mais en effet, ça prend du temps.
Voilà.
Et la question dont vous parlez de la concertation des usagers, puisque nous, on est une fédération d'usagers, on le sent très bien. Nos associations d'usagers, parfois, ne sont pas dans le tour de table. Donc, des choix sont réalisés par commande politique. Et donc, le choix est fait, ne répond pas aux besoins des habitants, ne répond pas aux besoins des citoyens. eux souhaitent changer de mobilité. Donc ça, là-dessus, on est très clair. Mais ça, ça demande des moyens. Ça demande des moyens humains dans les collectivités qui sont importants. Et on sait que les collectivités, elles sont un peu prises aussi parfois entre différentes injonctions et avec une baisse de dotation, ce n'est pas forcément évident. Il faut des ingénieurs qui sachent réellement travailler la question cyclable. De la concertation, ça prend du temps. Il y a évidemment énormément de choses à prendre
Thibaut
en
Kéré,
compte dans les paramètres.
Je vais quand même mettre les pieds dans le plat. Parce que sur Direct Studio, l'application RMC, Mao en témoigner, il y a énormément de messages de ceux qui nous écoutent et qui mettent quand même en cause le comportement des cyclistes. Moi, j'ai ce message, par exemple, tu l'as devant toi, je ne sais pas si tu l'as. C'est quelqu'un qui nous parle de Paris, c'est Kevin qui nous parle de Paris. Bon, c'est Paris, mais ça pourrait être Lille, ça pourrait être Clermont-Ferrand et ça pourrait être Lyon ou Grenoble. Tu peux nous le lire ?
Il dit, en tant que piéton, j'ai plus peur des vélos que des voitures. J'ai déjà eu une collision dans une rue où le vélo roule dans les deux sens alors que la rue est à sens unique. Oui, mais... Et des dizaines de fois, c'est passé
très
près. Et c'est vrai qu'il y en a vraiment, pour le coup, beaucoup. Tout le monde fait état de témoignages comme ceci.
Et Thibaut, je vais mettre les pieds dans le plat, parce que on l'a déjà évoqué, ce sujet du comportement des cyclistes. Aujourd'hui, il n'y a aucune formation. Voilà, on s'achète un vélo, ou d'occasion ou pas, ou on trouve un vélo dans la famille, on monte sur son vélo et ça y est, c'est parti. Est-ce qu'il ne faudrait pas, aujourd'hui, une formation obligatoire pour les cyclistes ? Certains évoquent même, je ne vais peut-être pas aller jusque-là, mais certains l'évoquent, un permis pour les cyclistes.
Non, je pense pas du tout que le sujet il soit là. Enfin, juste pour rappeler un peu les chiffres, 98% des accidents qui sont faits sur un passage piéton, ils sont causés par un véhicule motorisé.
Quand on compare le nombre de voitures et de vélos, voilà.
Non, mais qu'on mette un peu les choses au clair, les 100% des morts piétons le sont renversés par un véhicule motorisé. Qu'aujourd'hui, il y a un problème d'adaptation des villes et des espaces à la présence des vélos et surtout des piétons, qui restent quand même normalement les rois de l'espace public. Hein, dans une hiérarchie, comme c'est le cas aux Pays-Bas, c'est bien eux qui doivent être prioritaires en tout. Que ces choses-là soient mal organisées et qu'aujourd'hui, on ait des conflictualités entre usagers, c'est clair et personne ne dira le contraire. Comme il est aujourd'hui très clair qu'il y a énormément de conflits entre les piétons et les voitures, entre les personnes circulant en vélo.
Mais est-ce qu'il faudrait pas quand même Thibaut Kéré, excusez-moi, mais est-ce qu'il faudrait pas quand même une formation minimale? Moi, je me souviens que les premières fois où j'ai pris un vélo pour rouler vraiment, je parle pas sur le trottoir quand j'étais gamin, mais vraiment, j'avais 14-15 ans où mes parents m'avaient offert un vélo et j'ai commencé, c'était mes premiers moments d'indépendance, dans une ville moyenne, j'allais à la bibliothèque, etc., en vélo, j'allais voir des copains en vélo, et je me souviens que je n'avais aucune notion du code de la route, que je faisais n'importe quoi, que je me faisais klaxonner par des voitures, je ne comprenais même pas pourquoi. J'étais à la limite, priorité à droite, je la connaissais même pas, je savais pas ce que c'était. Je n'avais aucune notion.
Mais on pourrait aussi faire le même parallèle avec tu parles d'un permis vélo ou d'un
mais une formation, au moins une formation.
Non, mais je dis pas le contraire, mais c'est aussi le cas, par exemple, pour les piétons. Je veux dire, quand notre auditeur parle de,
t'es moins dangereux quand t'es piéton. Si tu rentres dans une voiture quand t'es piéton, c'est à toi que tu vas faire mal.
Nous sommes d'accord, mais quand notre auditeur parle de vélo à contresens, dois-je le rappeler que c'est la loi. Et que toutes les routes à moins de 30 km/h, les vélos peuvent rouler à contresens.
Mais tout, est-ce qu'il faudrait pas
une voie qui sont pas assez larges pour laisser passer le vélo?
Bien sûr, mais tout de suite vouloir opposer vélo piéton, c'est dommage.
On laisse trottinette.
Oui, on laisse répondre.
Cela faut les interdire.
Thibaut,
cela faut les supprimer.
Là-dessus, et tout le monde sera heureux de le savoir ou de le réapprendre, c'est qu'il y a une formation maintenant qui est obligatoire et qui sera diffusée à partir de 2024 pour tous les enfants en CM2.
2024.
De 10-15 heures, qui permettra notamment pour tout le monde de revoir les classiques de la circulation à vélo et qui mettra en plus, et ça il y a peu aujourd'hui d'enfants qui sont formés à ça, les permettra aussi de circuler en milieu réel pour vraiment apprendre à s'insérer dans une circulation.
C'est déjà pas mal.
Une politique importante et intéressante sur laquelle nous on est extrêmement actifs à la fédération puisque c'est nous qui la portons avec le ministère des Sports. Après nous aussi, et ça moi j'invite totalement toutes les personnes qui veulent se remettre au vélo et en effet qui ont besoin de refaire un peu un coup de rafraîchissement sur comment on fait du vélo et surtout comment on entretient bien un vélo, comment on s'insère dans la circulation et comment on évite les accidents, à aussi rentrer dans toutes les vélo-écoles qui sont portées par notre réseau, puisqu'il y a un grand réseau de 300 vélo-écoles en France dans quasiment tous les départements, où on peut venir prendre des cours avec des bénévoles ou des professionnels pour réellement apprendre à réenfourcher un vélo, l'entretenir et derrière s'insérer dans une circulation.
Merci.
Ça, voilà, cette démarche-là qui est pas, qui n'impose pas, qui n'est pas dans une logique, encore une fois, d'imposer des permis.
Non, non, mais qui s'avère en tout cas bien, bien utile et salutaire pour un certain nombre de ceux qui évitent des accidents. Thibaut Quéré, responsable du plaidoyer à la Fédération des usagers de la bicyclette. On est pris par le temps, mais je vais donner la parole un instant à John, qui nous appelle depuis le 13e arrondissement de Paris. Bonjour, John.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC. Cycliste?
Oui, ancien cycliste.
Alors pourquoi ancien?
Je suis devenu piéton par la force des choses, puisque je me suis fait éclater par une voiture dans une piste cyclable. Donc on est typiquement dans ce qu'a annoncé Thierry Moreau. En fait, c'est un problème d'infrastructure. Hein. En fait, je roulais en allant un matin au bureau. Hein. Une dame qui descendait d'un VTC, qui a ouvert sa portière en plein sur la piste cyclable. Donc, plateau de tibia, cassé, malléole cassé, bref, quoi, opération. Donc, maintenant, je suis devenu piéton par la force des choses, hein, par la peur, on va dire. Et je me rends compte que même en étant piéton, c'est très compliqué, quoi. Même sur un trottoir à Paris, on peut se faire éclater par un vélo, par une trottinette, par un gyropode ou par...
C'est l'anarchie. Dans un certain nombre de villes, ça reste l'anarchie.
C'est totalement anarchique. Hein. Donc on en est en fait au point où les cyclades sont tellement mal foutues que même les cyclistes ont pas envie de les prendre et roulent sur les trottoirs.
Ah bah parfois on est plus en sécurité sur le.
Je peux témoigner qu'il m'arrive moi, pas de façon régulière, mais il y a les pistes cyclables dans Paris que j'évite et que je roule avec les voitures.
Allez hop, troisième amende.
Merci. On a le droit. Non, attention, on a le droit de rouler sur la route quand on est un vélo.
Non, mais pas sur le trottoir. D'ailleurs. Le trottoir, c'est
pas le trottoir, mais la route. Mais avec les voitures, c'est un peu plus dangereux qu'avec les piétons.
Exactement. John, merci d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Hein, John qui nous appelait depuis Paris. On vous a posé la question, qu'une ville française dans le top 10 mondial des mieux adaptés au vélo, la cohabitation automobiliste-cycliste est-elle impossible en France? Résultat, Mao.
Elle est impossible pour les internautes à 66%.
Bon, bah voilà, ça révèle un peu tout ce qu'on a entendu. Hein. Dans un instant, c'est le meilleur du jour sur RMC. Le zapping, à tout de suite, c'est Estelle Midi jusqu'à 15h.
RMC, midi 15h. Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi tous les jours, midi 15h sur RMC. Vous allez me dire, sur RMC, il n'y a que du meilleur. Mais nous, on a trouvé le meilleur du meilleur.
Le meilleur du meilleur.
Ouais.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
C'est le zapping RMC, on commence avec Apolline Matin. Doit-on encore faire confiance à Météo France? Après les violents orages en Corse ayant causé la mort de 5 personnes et blessé des dizaines de personnes, l'établissement public avait été mis en alerte avant la tempête. Une alerte jaune au départ, puis... seulement quelques minutes, une heure avant le déluge, l'avait relevé en rouge. Mais de nombreuses personnes dénoncent la sous-estimation des risques. Cela peut être dû à une défaillance technique, mais pas seulement. Selon Jérôme Lartisan, il est délégué FO à Météo France.
Avec des modèles de prévision de plus en plus fins et de plus en plus nombreux, il faut garder une expertise de prévisionniste, d'ingénieur et de technicien. Et là, malheureusement, à Météo France, on fait le contraire. Au niveau des effectifs, on perd à peu près 3% par an. On a perdu 24% en 10 ans.
Et ça fait une différence dans votre travail au quotidien ?
Oui, ça fait une différence dans le travail au quotidien parce que autrefois, au début des années 2000, il y avait des centres dans les départements. Ces centres départementaux sont supprimés et il y a moins de présence humaine locale. C'est plus difficile pour un prévisionniste de faire une prévision sur 3, 4, 5 départements, voire 18, que pour un département.
Pierre, je te voyais réagir à l'écoute de cette interview. C'est vrai que moi, hier, ma première réaction a été de me dire ça va bien de toujours taper sur Météo France. Météo France, d'ailleurs, le disait déjà avant, c'est très, très compliqué de prévoir l'arrivée des orages. En tout cas, on peut donner une tendance. Mais là où ils vont éclater, de quelle intensité? Alors, Météo France ne cesse de nous répéter on ne peut pas. Ce sont des prévisions, on n'y arrive pas. Et il arrive ce qui est arrivé, c'est dramatique, c'est arrivé en Corse. Mais Météo France, on dit, bah, on vous l'avait dit. On
ce
ne
sont des prévisionnistes.
Ceci étant dit.
Personne n'est capable
j'avais
de
pas
lire.
Pensé, ouais, mais
de
j'avais, lire pas dans pensé, j'avais pas pensé à ce qu'on vient d'entendre.
Alors, et c'est pour ça que c'est très intéressant cette intervention. Et on ouais. est bien dans le meilleur du meilleur d'RMC. Parce que, à première vue, on va s'imaginer qu'attention, ça ne sert à rien de taper sur le dos de Météo France. Ce sont des prévisionnistes. On ne peut pas prédire l'avenir. Ils vont pronostiquer, prévoir
ils font ce qu'ils
une
peuvent.
Estimation. Ils font ce qu'ils peuvent. Mmh. Donc, ça ne sert à rien de leur taper dessus. Maintenant, en écoutant ce salarié de Météo France.
Non, c'est un délégué. Oui, c'est un
syndicat de Météo France. Et évidemment que la véracité, en tout cas le degré de sérieux.
De précision.
De précision dans la prévision est directement lié aux moyens qu'on a mis en œuvre pour établir cette prévision. Et si, comme on l'entend, on a une baisse des effectifs de 24% en 10 ans, on va dans un nivellement vers le bas, on va dans un dénigrement, on va dans une chute de la qualité prévisionnelle de Météo France, ce qui provoque ce que ça a provoqué pas plus tard qu'il y a 2 jours, où on était sur une estimation à un risque jaune d'orage en Corse, qui est passé à rouge en quelques minutes. C'est très compliqué. Alors, je vois Thierry faire nom de la tête.
Il n'est pas d'accord du tout. Hein,
bien vraiment. Évidemment que si tu baisses les effectifs d'une instance chargée de prévoir et de calculer, de déterminer le degré et la précision du climat, tu t'attends à ce que tu aies un nivellement vers le bas
ce qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on va trouver un syndicaliste qui va dire « Ah, mais c'est parce qu'on a baissé les effectifs ». La baisse de 24%, parce que j'ai regardé un petit peu des effectifs de Météo France, on a aussi remplacé des choses qui maintenant sont faites par des machines. Des calculs qui étaient faits à la main et qui sont faits par les machines. Donc la baisse de 24% juste en disant « c'est parce qu'on n'interprète pas, on n'a pas assez d'humains pour interpréter les cartes », c'est une fake news, c'est faux. Alors peut-être qu'on baisse trop les effectifs, ça c'est un autre débat. Mais à chaque fois qu'on a un problème, on dit « ah oui, il y a toujours un syndicat qui monte au créneau et qui dit « ah oui, mais c'est parce qu'on baisse les effectifs ». Aujourd'hui, on le sait, et tu es bien placé pour le savoir parce que tu es de cette sensibilité-là, le changement climatique fait qu'on aura de plus en plus des événements climatiques qui seront violents, qui seront imprévisibles et soudains. Donc, on aura beau mettre tous les moyens de la Terre, on aura quand même de temps
en temps. Emmanuel.
Alors, moi, il se trouve que je connais vraiment très bien Météo France parce que je forme leurs prévisionnistes à la prise de parole, que ce soit devant un micro ou devant une caméra, et que je connais bien le directeur des médias qui s'occupe de nous fournir tout ça. Et il y a tout un tas d'explications. Effectivement, il y a moins de monde. Ça, c'est une chose. Il faut savoir aussi qu'en cas de. Quand il se passe des choses comme ça, et c'est déjà arrivé en France, dans le sud, c'était il y a 3 ans, il y a eu une catastrophe où pareil, ça n'avait pas été l'alerte rouge. Parce que l'alerte rouge, il faut des conditions hallucinantes à réunir comme prévisionniste pour pouvoir dire c'est une alerte rouge. Et c'est jamais Météo France qui décide. C'est la préfecture qui décide. Et ils ont une chambre, enfin une pièce à Météo France qui s'appelle la pièce rouge, je crois, et où personne n'a le droit d'entrer si ce n'est le chef prévisionniste et puis le préfet ou son représentant. Et voilà, il y a des personnes du gouvernement, etc. Et les décisions se prennent de manière conjointe. Là, ça s'est levé en une minute. Hein, la tempête s'est levée en une minute. Et la baisse des effectifs fait quand même, si j'en crois ce que j'ai entendu ce matin, c'était chez les GG, que la Corse est surveillée depuis Aix-en-Provence. Le temps que le mec d'Aix-en-Provence ou la dame de Météo France se rende compte de ce qui se passe, qu'éventuellement il passe un appel, mais à qui, puisqu'il n'y a pas y a personne de Météo France en Corse, le temps de prévenir, de toute façon, la tempête, elle était déjà tombée, les morts étaient déjà morts. Quoi. C'est... T'as raison quand tu dis que ce sont des prévisionnistes, on ne peut pas leur demander plus que ce qu'ils font aujourd'hui. Et il y a aussi un autre problème, c'est que les satellites français ne sont pas excellents. Ils sont dépassés aujourd'hui, ça vaut des milliards. Les satellites américains et russes sont bien meilleurs. Et il y a un gros plan de renouvellement des satellites français qui seront bien
donc
plus performants en temps
réel. Il y a quand même une question, après ce qui est arrivé en Corse, il y a quand même une question sur les conditions de travail à Météo France. Ouais. Les grandes gueules, faut-il encore aider financièrement les hôteliers restaurateurs? D'après une étude d'un syndicat patronal du secteur, près de 25% des entreprises qui ont contracté un prêt garanti par l'État lors de la crise Covid ne seraient pas en mesure aujourd'hui de le rembourser. Et le restaurateur des GG, Stéphane Manigold, demandait ce matin que l'État allonge ses prêts. Le remboursement.
Je rappelle que beaucoup de mes confrères ont fait un PGE, donc un prêt garanti par l'État, avec un flingue sur la tempe.
Oui.
C'est-à-dire qu'on nous a dit, vous fermez, et on va vous prêter de l'argent. J'ai souvenir, et je l'ai tweeté, d'un débat du second tour où le candidat Macron, maintenant président, qu'a dit Emmanuel Macron, il a balayé le sujet, on les allongera. on réglera le problème. Eh bien, Emmanuel Macron, il est président de la République maintenant, il est aux commandes, eh bien, il est temps qu'il allonge ses PGE sur 10 ans. 4 ans, c'est intenable. 10 ans pour tout le monde, sans inscription au fichier bancaire des mauvais payeurs. Ça, c'est une promesse que le candidat Emmanuel Macron a fait. Nous avons entendu cette promesse, nous l'avons soutenue. Il est temps qu'il tienne ses promesses sur ce sujet.
Pierre Rondeau, il faut continuer à aider les restaurateurs.
Il veut le beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière aussi, enfin, sur 10 ans, pourquoi pas 15, 20, 30, 50 ans. Je veux dire, tout le monde a souffert du confinement et de la crise du Covid. Tout le monde a bénéficié, heureusement d'ailleurs, du quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron et du gouvernement, qui a coûté plus de 300 milliards, rappelons-le. Donc, bien évidemment que cette aide, c'est pas, on a reçu une aide, enfin, ce qu'il dit est assez aberrant, avec un flingue sur la tempe. Non, ils l'ont accepté, ils l'ont signé, ils l'ont validé, ils l'ont touché, ils ont touché de l'argent public. Aujourd'hui, maintenant, ils ont bénéficié de la solidarité. La solidarité, tout le monde participe. Mmh. Aujourd'hui, les restaurants sont ouverts. Aujourd'hui, ils tournent. Aujourd'hui, ils vendent. Aujourd'hui, ils accueillent des clients. Donc, bien évidemment que demain, ils doivent aussi rembourser ce qu'ils ont perçu, le PGE, comme les millions de Français qui ont bénéficié des aides Covid.
Absolument. Et je connais, moi, dans mon entourage, des restaurateurs qui ont gagné plus d'argent pendant la période Covid grâce aux aides et qui ont utilisé le PGE pour ouvrir un deuxième restaurant.
L'exemple. Oui, non, il y en a. Tu peux toujours prendre des exemples.
Non, mais
je connais aussi des restaurateurs qui ont mis des clés sous la porte. Hein.
Ce que je veux dire, oui, sauf que il faut bien comprendre un truc, et c'est qu'un certain nombre de restaurants qui étaient déjà sur le fil rouge.
Oui, c'est ceux qui étaient mal en point.
Par le PGE et se retrouve ou par les aides gouvernementales et se retrouvent maintenant dans la situation où ils étaient avant le Covid et donc en cessation de paiement et vont fermer. Et il y a des restaurants qui vont fermer. Et je suis d'accord avec toi, on leur a jamais mis le flingue sur la tempe.
Emmanuel.
Eh ben si, moi je suis désolée, moi un PGE j'en ai un. Je travaille dans un secteur indépendamment de ce qui se passe ici en radio qui s'appelle l'événementiel, qui a pas encore totalement repris. J'ai dû prendre un PGE, le revolver sur la tempe. Pierre, excuse-moi, ça m'a pas fait plaisir. Et aujourd'hui,
revolver sur la tempe, t'as obligé à le prendre.
Parce que, ben, on m'a pas obligé, mais mes finances m'ont obligé à le prendre, et le fait que tu sais pas, c'est au moment du premier confinement.
On t'a obligé, on t'a obligé à cesser ton activité.
Ah bah là, pour le coup,
Donc, on t'a obligé à quelque chose, c'est à cesser ton activité.
Bien sûr.
Et pour t'en sortir, t'as été obligé de prendre un PGE.
Évidemment, parce qu'en plus, c'était au moment du premier confinement, tu savais pas s'il allait pas en avoir un deuxième, un troisième et un quatrième, en l'occurrence, oui. Et donc voilà, et aujourd'hui, moi j'avoue que je rembourse ce PGE en tirant la langue, et que si je pouvais avoir un petit peu, alors peut-être pas encore 5 ans de délai, peut-être pas 10 ans, mais juste un petit peu de marge, je serais pas contre, parce que on parle beaucoup, beaucoup de la restauration, on parle jamais du secteur de l'événementiel, qui est un secteur qui n'a pas encore repris vraiment totalement de manière flamboyante comme c'était avant. Donc c'est la galère. Et voilà, et c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. Donc j'entends ton discours d'économiste que je trouve sur le papier absolument parfait. Je signe des deux mains. Sauf que quand tu es concerné, eh ben c'est hard, quoi. C'est super hard.
En plus, c'est un prêt à 0%, une inflation de 5%. Donc théoriquement, on gagne de l'argent.
Ouais, vu comme ça, Apolline Matin, tiens, on reste dans le milieu de la restauration, puisque on se pose cette question, faut-il fermer les restaurants à minuit? À Bordeaux, des riverains qui habitent à côté de restaurants et de bars ne supportent plus les nuisances sonores nocturnes. Ces nuisances, qui seraient fortement accentuées depuis la fin des confinements, malgré les amendes infligées par la mairie. Témoignage de Marie, elle est bordelaise, excédée par le bruit la nuit.
C'est celui qui fera le plus de bruit. Vers 2h du matin, c'est là où ça commence. Les gens sortent, ils font attention à rien. Ils sont un peu sous, même beaucoup. Et donc, c'est vrai que ça réveille. Ils crient, chantent, quand ils n'envoient pas valser toutes les poubelles sur leur chemin.
Tiens Pierre, je me tourne encore une fois vers toi, parce que tu fais partie de ceux qui embêtent Marie. Hein, comme on entend. Pas à Bordeaux, mais toi c'est à Paris. Non mais on a déjà eu le sujet.
J'imagine que c'est pareil à Bordeaux et pareil dans toutes les grandes villes de France. Il y a des quartiers festifs, ils sont tous connus. À Paris, on peut citer la Butte aux Cailles, Oberkampf. Il y a des quartiers festifs où les bars sont ouverts, il y a beaucoup de monde dehors, encore plus quand il fait chaud. Et donc, partant de cette considération considérant que le quartier est historiquement un quartier festif et oisif, les gens qui y habitent le savent pertinemment. J'ai juste en tête l'exemple de la Butte aux Cailles, dans le 13e arrondissement, connu pour ses bars nocturnes et ses rendez-vous en extérieur, où il y a une association qui a été mise en place, qui s'est créée, les riverains de la Butte aux Cailles, qui s'opposent aux nuisances sonores. Des gens qui habitent à la Butte aux Cailles et qui s'opposent aux nuisances sonores, pour moi c'est une aberration, sachant que ce quartier est connu pour ses bars, est connu pour ses bars.
Mais est-ce que ça s'est pas un peu accentué
pour ses bars de nuit ?
Est-ce que ça s'est pas un peu accentué depuis la fin du confinement ?
Absolument pas, que ce soit avant alors, ou après le confinement. Je suis désolé, je fréquente peut-être que Thierry pour me citer d'autres quartiers. Le cas de la Butte aux Cailles est un exemple type. C'est que simplement ils ont profité de l'aubaine en disant parce qu'ils ont connu la paix durant le Covid, ils ont envie de la maintenir cette paix. Et donc maintenant ils s'offusquent de voir ces bars qui depuis toujours sont ouverts la nuit. Rester et faire du bruit. Mais je suis désolé, si vous plaigniez de ce bruit, n'habitez pas là. Ces gens-là ont bénéficié
de... Ne t'énerve pas et baisse d'un
point. Simplement.
Tu fais trop de bruit là.
Ces quartiers-là.
C'est comme ça le soir.
Ces quartiers-là, comme ils sont festifs et il y a beaucoup de bruit, et bien forcément, coûte peu cher au prix du mètre carré par rapport à d'autres lieux, d'autres quartiers, donc ils ont bénéficié, se sont installés là-bas et maintenant s'en plaignent.
Thierry, sauf que là où tu es de mauvaise foi, c'est que à l'occasion justement de la fin du confinement, il y a eu des terrasses qui ont été autorisées dans certains quartiers, soi-disant éphémères et beaucoup plus importantes en volume. Alors peut-être pas dans la rue que tu cites. Mais dans un certain nombre de rues parisiennes et de grandes villes, parce qu'il ne faut pas contingenter ça uniquement à Paris, où les terrasses éphémères ont continué à perdurer et font plus de bruit que les bars avant, quand ils avaient des terrasses plus réduites, voire pas de terrasses du tout. Donc tu es un tout petit
maintenant,
peu malhonnête dans ton
éphémère, en tout cas pour le cas encore.
Mais je suis d'accord avec toi, quand on habite en ville, au-dessus d'un restaurant, évidemment.
On est d'accord.
Moi, j'ai habité Paris dans une ville où il y avait un restaurant. Et ben, de temps en temps, effectivement, à la sortie du restaurant, il y avait quelqu'un qui faisait un peu de bruit. Ça n'arrivait pas tous les jours, Dieu merci. Quand on habite en ville, et ben, on a les désagréments de la ville.
Moi, je sais pas de quoi vous parlez. Moi, je vis à la campagne. J'ai un sommeil de plomb, des nuits magnifiques.
Ouais, mais
oui, mais à la campagne. Alors, moi, j'habite à côté d'un endroit où il y a des mariages. Donc, tous les samedis soirs, il y a des feux d'artifice. Ce qui n'est pas très grave.
À la campagne, il y a des coqs le matin très tôt et ça sent mauvais.
Ça y est, les terrasses éphémères, c'est fini à Paris, en tout cas, maintenant.
Ah, ça y est, ils ont enlevé les terrasses.
Non, mais bon, et puis à Lille aussi, enfin, non, normalement, c'est terminé. Mais ça n'empêche pas, bien sûr, Pierre Rondeau de faire du bruit la nuit.
Toujours.
Apolline Matin, faut-il craindre la grande démission en France ? Les chiffres viennent de tomber. 500 000 démissions ont déjà eu lieu entre janvier et mars de cette année. Et cela risque de s'accentuer puisque désormais les Français recherchent plus de sens dans leur vie, paraît-il, et leur travail. Ça, c'est ce que dit Céline Jusot. Elle est spécialisée dans les bilans de compétences.
Au-delà du Covid, je pense que ça fait un moment quand même qu'il y avait une évolution structurelle. Aujourd'hui, le travail, il est moins manuel, il est plus intellectuel, il est mondial. Donc nos clients finaux de notre travail, ils sont éloignés, on les voit plus. Souvent, on a du mal à mesurer l'impact de ce qu'on fait. Et en fait, on a besoin de comprendre à quoi ça sert ce qu'on fait. Et aujourd'hui, les gens ont besoin d'impacter positivement. En plus, je pense que le climat y contribue. On a aussi des nouvelles générations qui arrivent et qui fonctionnent différemment. Je pense que nous, on a appris à se conformer. Eux, ils ont besoin de vérifier tous les jours s'ils sont bien alignés. Et puis, peut-être qu'aussi, ils ont une audace supplémentaire pour le faire.
Emmanuel.
Quand elle dit le climat y contribue, il faut être un peu plus précis. L'emploi s'est jamais aussi bien porté en France depuis un sacré moment. Donc, je pense que ça contribue
c'est ce qu'elle dit, ouais.
aussi.
C'est ce qu'elle veut dire. Ouais.
Voilà, ce qu'elle veut dire. Ça contribue aussi à quitter plus facilement son job si tu penses que tu vas pouvoir en retrouver un, peut-être qui correspond mieux, etc., etc. Moi, je trouve ce mouvement extrêmement intéressant, qui est certainement une suite. Pas forcément une réplique de ce qui s'est passé aux États-Unis, The Big Quit, mais de tout simplement des confinements qui nous ont beaucoup remis en cause sur les vies de dingue qu'on mène tous, les endroits où on habite. Et je me demande si ce mouvement n'est pas parallèle avec la fuite, notamment des Parisiens, mais pas que, peut-être des citadins en général, mais c'est quand même assez flagrant à Paris, vers les villes de province, que sont Rennes, Nantes, Dijon, enfin toutes ces villes où il fait très très bon vivre. Voilà, donc est-ce que ce sera aussi fort qu'aux États-Unis ? Je sais pas, je trouve le mouvement intéressant,
et puis sans doute qu'il y aura un mouvement 500 000, inverse. 500 000 démissions
Mais je pense que c'est les gens qui peuvent se le permettre, qui font ça aussi, qui ont un certain niveau de salaire, et qui peuvent se le permettre. L'ouvrier du coin, je suis pas sûr qu'il puisse se le permettre.
Ça veut pas dire que je démissionne pour changer totalement de métier. Dans les 500 000 démissions, il y a aussi des gens qui, vu l'ambiance dont on parlait, c'est-à-dire le contexte du marché, le marché du travail aujourd'hui, quittent un emploi pour conserver, donc rester dans le même secteur, mais qui savent qu'ils sont plus bankable, comme on dit, en tout cas, qui savent qu'ils peuvent changer de métier avec de meilleures conditions de travail, d'autres conditions de travail, voire un meilleur salaire.
Mais Emmanuel, c'est pas seulement les gens qui ont les moyens. Je connais, moi, dans mon entourage, des gens qui sont dans un métier qui trouvent que leur métier n'a pas de sens, ils sont dans une entreprise qu'ils ne trouvent pas éthique, et aujourd'hui, un certain nombre, et une nouvelle génération, et je trouve ça très bien, considèrent que la réussite
personnelle ne passe pas forcément par une réussite professionnelle comme nous on a pu vivre dans les années 80, 90, 2000 et qui veulent donner du sens à leur vie mais aussi à leur travail. Et ça je trouve que c'est très important, ça passe par des rémunérations de travail, de salaire, parce que il y a quand même beaucoup de métiers dont on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas très très bien payés et essentiels, et puis aussi des entreprises éthiques. Et je pense que ça fait aussi partie de ce
mouvement
là.
Avec des arguments écologiques aussi pour certains.
Et ce mouvement permettra aussi, je pense et j'espère, aux entreprises de se remettre en question et de dorénavant accepter les demandes et les revendications de leurs salariés quand on parle d'augmentation des salaires et d'augmentation des conditions de travail. S'il y a de plus en plus de démissionnaires, c'est aussi parce que au sein du travail et de certains postes de qualification, il n'y a pas la réponse à apporter aux salariés en termes de pouvoir d'achat, en termes de conditions de vie, en termes de qualité du travail. Et c'est bien qu'on ait ce mouvement de démission.
Allez, dans un instant, le coup de cœur de la semaine dans Estelle Midi. On va parler d'un cinéma pas comme les autres. C'est tout de suite sur RMC. Estelle Midi, tous les jours, midi, 15h. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi 15h sur RMC. Tout de suite, on aime, et bien donc, on vous fait savoir.
RMC, Estelle Midi.
Le coup de cœur de la semaine.
Le coup de cœur de la semaine avec un cinéma pas comme les autres. C'est le premier cinéma français éco-responsable. Et Anne Faucon est avec nous. Bonjour Anne Faucon.
Eh ben bonjour et d'abord un grand merci parce que c'est grâce au soutien citoyen et puis au relais des journalistes qu'on existe aussi et ça a été des leviers extraordinaires.
Eh ben vous allez nous expliquer ça. Anne Faucon, cofondatrice du réseau Utopia et gérante du cinéma Utopia, donc dont on parle, qui est à Pont-Sainte-Marie dans l'Aube, c'est ça?
Juste à côté de Troyes.
Juste à côté de Troyes.
Combien d'habitants à Pont-Sainte-Marie?
5202, dirait le maire.
D'accord. Et j'imagine que parmi vos spectateurs, il y en a qui viennent aussi de Troyes, du coup.
Ah ben, il va y en avoir qui viennent de Troyes, mais il va ouvrir, en fait. Hein. On est en plein travaux, on est en train de terminer les travaux.
Ah, d'accord. Alors, à quoi il va ressembler, ce cinéma Utopia?
Il est tout en bois, enfin, une apparence bois. On a une structure... en bas, c'est forcément du béton. Parce que c'est imputrescible. Mmh. On a une fondation à béton et à partir de là, on a une structure complètement en bois, une isolation en paille. On a un petit hall d'accueil avec un petit bistrot, mais tout est insonorisé, on ne devrait pas gêner les riverains.
Tant mieux.
Quelqu'un qui nous a écoutés avant.
Qui est un lieu qui est non marchand où on peut venir amener son sandwich, papoter, amener des jeux. Et on a un petit hall d'accueil et quatre petites salles, dont une salle qui est spécialisée dans l'environnement en particulier.
C'est ça qui est intéressant aussi, parce que vous venez de l'aborder, c'est qu'au-delà de l'aspect, on l'a bien compris, éco-responsable du bâtiment, de votre démarche éco-responsable, il y a aussi une démarche, j'allais dire, intellectuelle, en tout cas philosophique. On peut amener son sandwich. Non, ça vous le verrez pas ailleurs. Dans d'autres cinémas, c'est compliqué.
Pas mais dans la salle, hein, dans le hall.
Oui, non, mais dans le hall, j'ai bien compris. Mais je veux dire, il y a un aspect très convivial.
Bah, c'est convivial et en fait, c'est dans la lignée de ce qu'on fait, de ce que les cinémas Utopia font depuis 50 ans. On est implanté dans 6 villes, on est un tout petit réseau de taille modeste avec des tarifs accessibles. On est classé à RSC, mais à plus de 90%, mais on estime que c'est d'abord populaire.
C'est combien la place?
Là, il y aura moins de 300 places.
Non, le prix de la place, pardon.
Ah, le prix de la place, pardon, il est à 7 euros le prix principal, et après il y a des abonnements à 5 euros, donc on peut les partager, c'est pas limité dans le temps.
Et vous parliez de films populaires.
Pour les enfants.
Vous parliez de films populaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'élitisme, on est dans le populaire.
Mais je crois que la RSC, c'est pas élitiste. Il y a que des élites qui nous expliquent que la RSC est élitiste. Parce que, par exemple, quand vous êtes espagnol, vous découvrez la langue française, arrivez, vous êtes ouvrier en bâtiment, par exemple, puisqu'on en a, avoir accès à un film de votre pays dans la langue bilingue, en fin de compte, puisque c'est sous-titré, il y a toute une plein de populations comme ça qui viennent et qui ne seraient pas allées dans un grand cinéma. Et en plus, le véritable élitisme, c'est quand les places sont à 10 ou 15 euros.
En fait. C'est un peu déjà le cas dans certains multiplexes parisiens,
de placer 15 euros. On est obligé d'acheter des pop-corn ou des confiseries au GOSP et que ça vous multiplie le coût de la place.
Non, mais j'avais une question aussi, parce que c'est, alors, effectivement, il y a une approche sur le bâtiment, une approche environnementale. Est-ce qu'il y a aussi une approche pédagogique où vous ne diffuserez que des films eux-mêmes éco-responsables qui véhiculent.
Oui, il y a une salle. Il y a une salle,
mais est-ce que l'ensemble des films ont une portée aussi environnementale, sociale et sociétale? Oui, est-ce qu'il y a un choix, il y a une sélection dans la diffusion des films?
On s'est toujours intéressé aux faits de société. On a toujours travaillé, on a parlé des luttes, des gilets jaunes, de ce qui se passait dans l'hôpital public, dans le nucléaire, dans l'agriculture. Donc en fait, faire ce cinéma, ça a été un prolongement en fait de ce que je vivais à Utopia. Ça avait du sens parce que la question, je me suis dit, mais en fait, pourquoi on est plutôt écolo, pourquoi on finit toujours par construire des bâtiments qui sont pas durables, qui sont en béton, et en fait, je me suis aperçu qu'on sortait à des freins énormes. Notamment, le premier frein, c'est le discours ambiant qui veut que si vous voulez construire écologique, ça va être 25 à 30% plus cher. Et moi, je me suis demandé si c'était une fatalité, et je me suis dit, faut faire la démonstration inverse. Et donc forcément, on a des films comme Le Cochon de Gaza, il y a plein de films qui ont du sens. Et je pense que tout ce qui a du sens, tout ce qui nous rapproche de l'humanité, quelque part, c'est ça qui est éco-responsable avant tout.
Et pour en savoir plus, Anne Faucon, j'imagine que sur n'importe quel moteur de recherche, il suffit de taper Cinéma Utopia et on retrouve tous les liens pour se renseigner davantage sur cette démarche. Merci beaucoup Anne Faucon d'avoir été avec nous dans Estelle Midi sur RMC. Dans un instant, c'est la suite d'Estelle Midi, hein. C'est un tremblement de terre. Oui, oui, une remise en question de ce qui nous est le plus essentiel, quelque sorte une remise en question de nous-mêmes, puisque les ventes de camembert sont désormais talonnés par celles de la mozzarella. Eh oui, sommes-nous en train de perdre nos valeurs culinaires? On vous pose la question. Vous nous appelez au 3216. C'est tout de suite, c'est Estelle Midi sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.